Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Tournez dans le psaume 77. Psaume 77. On va passer au travers tout le chapitre de psaume 77 aujourd'hui. Et je veux vous parler de la joie. La joie. Seigneur grand Dieu, merci pour ce privilège que j'ai d'être avec mes frères et sœurs, pour ouvrir ta parole, Seigneur, puis de comprendre que ce qu'on peut traverser, Seigneur, d'autres personnes l'ont traversé avant nous, et c'est ce qui est écrit, peut nous servir de consolation et peut aussi nous aider à nous tourner vers Dieu quand peut-être on a plus la tendance à embouteiller nos souffrances à l'intérieur plutôt que d'aller à toi. Tu dis que lorsqu'on se tourne vers toi, on est rayonnant de joie. Et Seigneur Dieu, celui qui se confie en toi, Seigneur, tu lui assures ta paix. Je prie, Seigneur, je connais pas chaque situation de chaque personne, Seigneur Dieu. Elles sont changeantes, Seigneur Dieu. Mais toi, tu ne changes pas, Seigneur. Et tes promesses demeurent toujours les mêmes de siècle en siècle, Seigneur. C'est pourquoi on t'appelle l'Éternel. Bienvenue, Seigneur Dieu, dans ton Église, dans ton rassemblement, Seigneur. Et je te prie que tu sois glorifié. Amen. Alors, on va tout simplement commencer avec la lecture du psaume 77, et puis on va lire les deux premiers versets. Au chef des chants, d'après Jéduthun, psaume d'Azaph, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont tendues sans se lasser et mon âme refuse toute consolation. Le passage de psaume 77 commence avec une personne anxieuse, une personne qui prend son anxiété puis qui l'amène auprès du Seigneur. C'est si intense qu'il ne dort pas le soir. Il dit, toute la nuit, je garde mes mains tendues vers Dieu. Et il pourrait dormir s'il dormait, un cachet pour s'endormir, quelque chose pour dire, regarde, on assomme ça, demain ça va être une nouvelle journée. Au lieu de fuir, il passe au travers de ça, il ne gèle pas son mal, puis il préfère rester réveillé puis prier à Dieu. Il ne veut pas fuir ce qu'il vit, il décide d'aller à Dieu avec ce qu'il vit. Et ça va pas mal tourner autour de ça, mon message aujourd'hui. Quand une personne passe une période difficile, elle a deux choix, soit elle l'utilise, soit elle le fuit. Et aujourd'hui, je veux qu'on voit comment on peut utiliser les moments tristes, les moments d'anxiété, les moments difficiles, comment on peut les transformer en joie, en faire une usine à joie. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, dormir, c'était une des choses que je choisissais de faire pour endormir mon mal. La drogue et toutes sortes de passe-temps aussi ont servi à geler un mal de vivre que j'avais. Puis, à l'âge de 17 ans, je suis allé dans une église pour sortir ma sœur de ce que je croyais être une secte. Et finalement, j'ai entendu le message qui a transformé ma vie. J'ai entendu le message de Jésus-Christ, et puis qu'on pouvait venir à lui, nous qui étions fatigués et chargés, puis il nous donnerait du repos. Puis là, je me suis approché, puis il me faisait avancer en avant à chaque message. Il disait, si le message vous concerne, venez, on va prier pour vous. Puis j'avançais en avant, puis je mettais mes mains comme ça, puis je recueillais mes larmes littéralement. Et je trouvais une source de réconfort que de verser mon vide, de verser qu'est-ce que j'avais dans mon cœur qui était vide. Puis, j'ai commencé à vraiment sentir la paix de Dieu, le réconfort de sa présence. Et j'ai réalisé qu'on avait été créé, il y avait un espace dans notre cœur qui était créé pour Dieu, puis j'avais été longtemps sans lui. Alors, Mais je réalise aussi qu'il y a des trous qui ont été faits dans notre cœur. Il y a des trous qui ont été faits par les souffrances qu'on a vécues, par les péchés qu'on a faits aussi. Il y a des carences, des ouvertures dans notre cœur qui, quand on se tourne vers Dieu, il nous pardonne, il nous remplit. Et que même ce qui était mal avant, Dieu peut prendre quelque chose de mal puis le changer en bien. Et dans le psaume 77, c'est un peu ça qu'on voit. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vit, mais ça a l'air lourd en tabarouette qu'est-ce qu'il vit. Puis on va lire le passage ensemble. Puis, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai accepté aussi que Dieu pouvait utiliser, j'ai commencé à me réconcilier avec mon passé, avec ma vie. J'ai commencé à accepter que Dieu pouvait utiliser des choses qu'il n'aimait pas pour faire quelque chose qu'il aimait. Et puis, il m'a amené à lui. On peut le fuir. Ça, c'était les deux passages. On peut choisir de ne pas affronter. Quand on vit quelque chose de difficile, on peut choisir de juste pas affronter. Mais c'est aussi de refuser le désir. Une personne qui n'utilise pas les choses difficiles, les problèmes dans sa vie, puis elle les fuit, d'une certaine manière, elle refuse de rêver. Elle refuse d'espérer. Elle refuse, peut-être qu'il y a des jours meilleurs, de saisir ses forces puis dire, je vais faire quelque chose, j'ai quelque chose à faire, je ne sais pas quoi, mais je vais faire quelque chose, puis il va y avoir des jours meilleurs. Il y a un refus de marcher dans une vallée. À un moment donné, la personne a dit, ça fait trop longtemps, ça ne change pas. Et là, il y a comme cette idée d'abandon, puis de ne pas penser que ça pourrait être mieux, puis d'arrêter de lutter aussi, un refus de lutter. Peut-être avec les douleurs d'incertitude. Ça va-tu vraiment changer de toute façon? Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir de toute façon? Et la personne, est tannée d'être dans une situation d'incertitude. Elle n'est pas capable, ne veut pas gérer les douleurs des pertes. Et le désir pour une délivrance, il est presque insatiable, il est intolérable. La personne veut une délivrance, puis là, elle voulait hier. Elle voulait hier que ça aille mieux. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit tout simplement. Elle n'affronte plus, ne tourne pas vers le Seigneur, mais se fuit dans toutes sortes de... Elle n'adresse pas la situation, finalement. Et Asaph, lui, dans le passage qu'on lit dans le psaume 77, il choisit de se tourner vers le Seigneur, puis d'utiliser le désespoir pour aller vers Dieu. Et donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Puis juste en guise d'introduction, Géraldine va nous raconter comment, dans le désespoir, elle l'a utilisé pour se tourner vers Dieu. On va regarder ce petit vidéo-là. On va fermer les lumières aussi. Dit qu'elle a crié à Dieu. Et dans notre psaume, c'est la même chose. On voit quelqu'un qui se tourne vers Dieu dans la douleur. Et la volonté de l'homme, c'est de céder devant une situation qu'il n'est plus capable de contrôler ou qui est bien au-delà. Il sait qu'il a besoin de l'aide du Seigneur, mais il sait aussi qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne peut pas juste fuir, rien faire. Il sait qu'il va avoir quelque chose à faire. Elle a dit, c'est beau, j'avais plus de cancer, mais il fallait que je me reconstruise. Et une personne qui veut transformer ces choses difficiles-là en joie ou en rencontre avec le Seigneur va avoir aussi quelque chose à faire, mais c'est par exemple une chose, c'est je ne peux pas le faire tout seul, j'ai vraiment besoin d'une relation personnelle avec Dieu pour passer au travers de ces choses-là. Et donc, Géraldine a dû se reconstruire avec Dieu et aller de l'avant. Contrairement à une personne qui fuit, l'homme et la femme qui utilisent le désespoir vont accepter aussi la réponse de Dieu. Une personne qui fuit ne veut même pas de la réponse de Dieu. Dieu va lui donner la réponse, Dieu va lui parler quasiment du ciel pour lui donner une réponse, mais la personne ne voudra pas la réponse. Mais une personne, par exemple, qui veut utiliser son désespoir pour se tourner vers Dieu, elle va prendre la réponse. Et même si la réponse, elle lui dit quelque chose sur elle, elle va accepter la réponse du Seigneur. Et donc, Utiliser, c'est laisser les épreuves nous façonner et permettre aux difficultés et aux pertes dans nos vies de tourner nos cœurs vers Dieu. Et là, on lit dans le passage, on est rendu au verset 3. « Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Pause. « Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. » Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il pas plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Pause. C'est honnête. Et là, je pourrais dire, il accuse tout Dieu sur des choses que peut-être c'est lui qui ne voit pas bien. Qu'est-ce qu'on voit? Je ne vais pas essayer d'expliquer qu'est-ce que Asaph il vit là, nécessairement, mais c'est ce qu'on aurait tendance à faire. Mais on voit un gars qui va à Dieu, qui est franchement honnête, puis qui va à Dieu, mais on le voit encore plus abattu. Il dit ici, je pense à Dieu, puis je gémis. Ça va encore plus mal avant d'aller bien. Il va à Dieu, puis qu'est-ce qu'il voit? Il est plus abattu. Pourquoi? Parce qu'il se souvient qu'avant, ça allait bien. Il pense avant, c'était meilleur. Autant que là, il vit des difficultés, autant il se rappelle de ses cantiques. Pourquoi il chantait des cantiques dans la nuit? Puis là, il garde ses yeux la nuit ouverte, puis qu'il gémit. Et il pense à quand il y avait des raisons de chanter. Il y avait des raisons de louer. Pourquoi ça allait bien, son affaire? Il surfait sur sa vague, ça allait bien. Puis il y avait plein de raisons pour dire « Merci Seigneur pour ci, merci Seigneur pour ça. » Puis ça le faisait chanter des cantiques la nuit. Mais là, sa douleur est encore plus grande parce qu'il pense à comment il était béni avant. Puis que là, il ne l'est pas, tu sais. En tout cas à ses yeux. Il pense aux raisons qu'il faisait chanter, puis ça accentue sa douleur parce qu'il y a eu des bonnes années. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des bons moments. Dans sa perception, il dit, c'est toi qui me gardes réveillé. Ah! Il dit, c'est toi qui me gardes en réveil. Seigneur, tu me rejettes, vas-tu me rejeter toujours? Seigneur, tu t'es plus favorable envers moi ou tu l'es-tu? Pose une question. Qu'en est-il de ta bonté, Seigneur, puis de ta parole, les promesses que tu nous as faites, que tu serais avec nous, que tu nous accompagnerais, que tu nous bénirais? As-tu oublié d'avoir compassion? Tes péchés, mes péchés t'ont sûrement mis en colère, tu dois avoir oublié d'avoir aussi miséricorde, parce que la Bible a dit que la colère de Dieu dure un temps, mais sa miséricorde durera toujours. Hein? Il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça. Et on voit une prière comme négative, si on peut dire, mais une prière. Mais il prie. Il ose parler à Dieu comme ça. Puis il y a certains d'entre nous qu'on est scandalisés, puis on dit, voyons donc, pourquoi accuser Dieu? Dieu est bon. Pourquoi tu m'en doutes de sa bonté? Tu sais? Mais en fait, quand on fait ça, puis on dit, on dit qu'on les amène à Dieu, puis tu sais, on va de l'avant. Mais en fait, on les embouteille. On embouteille nos choses. Puis, tu sais, souvent, tu pourrais te poser la question, tu sais, dans cette situation, je me sens comment? Puis, trouve une image comme... Et souvent, quand je vais demander aux gens, quand ils parlent d'une souffrance, donne-moi une image. Bien, je vois une petite fille dans un petit coin, la pièce est noire, puis elle est toute seule. Ou je la vois être seule, puis tous les amis sont plus loin, tu sais. Les gens vont me décrire quelque chose, puis là, après ça, je vais dire, OK, dans ton imagination, là, selon ta perception, il est où Dieu? Et souvent, si on aurait fait un dessin, si on aurait fait une image, n'importe quelle image qu'on aurait créée, souvent on s'aperçoit que la personne se voit sans Dieu. Dieu n'est pas dedans, ce scénario-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie? Bien, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne sent pas sa présence qu'il n'est pas présent, mais on lui dit « Pourquoi tu n'es pas présent? » On est en train littéralement de l'inviter et de le découvrir. Et donc, Souvent, nous autres, on dit que, regarde, on les donne à Dieu, mais en fait, on embouteille, puis on se déconnecte de nos émotions et aussi de Dieu d'une certaine manière. La foi, ce n'est pas d'accepter notre misère, puis de croire que Dieu est bon. Ce n'est pas juste d'accepter, c'est une foi qui crie, c'est une foi qui pleure, qui négocie, qui supplie. Ça fait 2-3 semaines que je vous donne des messages sur Abraham qui négocie parce que Dieu veut aller détruire la ville de Sodome, puis il négocie avec lui, puis... J'aurais pu vous parler de Jacob qui s'est battu avec Dieu jusqu'à temps qu'il l'ait béni. C'est une foi qui crie, qui supplie, qui négocie avec Dieu. Elle ne suppose pas que Dieu va nous envoyer son tonnerre si on met en doute sa bonté. Parce que si on pose des questions sur sa bonté, c'est qu'on va peut-être la découvrir. Puis Dieu est honoré, compris. Puis en faisant ça, ça transforme un désespoir malsain en un désir de comprendre Dieu dans cette situation-là. Ça l'invite. Et d'ailleurs, dans le psaume, on va voir que c'est exactement ce qui se passe. Asaph questionne Dieu sur sa bonté dans la vallée de son expérience, mais tranquillement, il nous fait monter une montagne, puis c'est la montagne de sa foi dans ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Et le reste du passage va vraiment nous montrer que quand on tourne notre cœur vers Dieu, même nos questionnements qui venaient de la vallée, sont éclipsés complètement par notre découverte de Dieu dans cette situation-là. Et en fait, Asaph, ce qu'il va faire? Il va retourner en arrière. Et on va lire à partir du verset 7. « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il pas favorable? Sa bonté est-elle jamais épuisée? » Je reprends juste les questions qu'il avait posées. « Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? » Pause. Et il a dit, je réfléchis, je médite, je gémis. Fait que là, il réfléchit à tout ça. Là, il dit, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. 3 petits points. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens des merveilles d'autrefois. Et le passage 10, quand on va voir dans l'original, il y a un bout de phrase qui n'est pas là. Ça voudrait plutôt dire Darby, qui est plus... littéral, va dire, et je dis, ceci est mon infirmité. Je me souviendrai des années de la droite du Très-Haut. Et quand on parle de sa droite, on parle de sa puissance, de la capacité de Dieu d'accorder une délivrance. Et donc, il y a une infirmité, il réalise, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et là, il dit, OK, là, je vais me rappeler les années de la droite du Très-Haut. Et là, il réalise que ce n'est pas Dieu qui a une infirmité dans sa compassion, Dieu qui a une infirmité dans sa bonté, dans sa parole, dans sa capacité à tenir ses promesses. C'est pas lui qui, c'est lui qui a une infirmité. Et il réalise que c'est lui qui a oublié que le Dieu en qui il avait fait confiance, il est toujours là et il peut encore lui faire confiance. Et il va utiliser le souvenir pour se redonner de l'espoir et se rappeler de la plus grande intervention de l'histoire peut-être du peuple d'Israël, c'était la sortie d'Égypte. Et là, il va commencer, on va lire le verset 16, dans vos Bibles, il ne sera pas à l'écran. « Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu et elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla, et tu te frayas, au verset 19 du chapitre 77 de Psaume, et tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Quand que c'est écrit ça fait déjà des siècles que ça s'est passé. Comme nous, quand lui a écrit, ça fait des siècles que ça s'est écrit. Mais lui, ça faisait des siècles que ça s'était passé, cette sortie-là du peuple d'Égypte. Mais il choisit de se rappeler ce qu'il a lu, ce qu'on lui a raconté à propos de la sortie du peuple d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il se souvient? Eh bien, il se souvient que le peuple d'Israël était acculé, était complètement coincé entre la mer Rouge, puis en arrière, il y avait ses ennemis qui les avaient eus comme esclaves, mais que là, ils étaient bien prêts à en faire de la boucherie. Ils étaient bien prêts à les mettre à mort. Et il se souvient de la détresse qu'ils avaient, puis il compare peut-être ça à sa propre détresse, à sa propre difficulté, puis il dit, tu t'es fait un chemin dans la mer. Et donc, face à une impossibilité, pressé par un pharaon irrité, en proie à des soldats qui voulaient les tuer, sa mémoire des actions de Dieu dans le passé devient un refuge pour ses troupes présentes. Ce n'est même pas à lui que c'est arrivé, mais c'était le Dieu d'Israël, le peuple d'Israël à qui c'est arrivé. Mais il se rappelle des actions de Dieu dans le passé et ça devient pour lui un refuge. La mémoire dans la Bible est souvent utilisée en collaboration avec la foi. Hein? Elle joue un rôle pour exercer notre foi. Ce n'est pas un simple fait de se remémorer des événements. Le psalmiste, il a changé d'attitude. Pourquoi? Pas parce qu'il s'est juste souvenu des événements, mais il s'est souvenu que ce n'était pas juste des pensées qui impliquaient son imagination, mais il a emprunté dans le passé. Qu'est-ce qu'il a emprunté dans le passé? Il a emprunté une capacité de faire confiance à Dieu qui vient du passé. C'est-à-dire que Dieu il a accru sa renommée par la grandeur de ses œuvres. Et puis, il reconnaît que ce Dieu-là est encore vivant aujourd'hui. Donc, quand un homme, par exemple, un homme prie pour que Dieu se souvienne de son peuple, c'est ça, dans le psaume 74, c'est pas juste une... quand que Dieu, on demande à Dieu de se souvenir, dans le psaume 74,2, il dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu as fait ta résidence. Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. » Donc, psaume 74, verset 2, qu'est-ce qu'on voit? Le psalmiste n'est pas en train de dire « Rappelle à ton imagination, Seigneur, tu sais ce qui est déjà arrivé, là, tu étais là dans le sanctuaire, puis là, ils ont dévasté ton sanctuaire. Fais juste t'en souvenir. » Non, non. Souviens-toi, ça veut dire aussi de rappeler en Dieu comment il a été bon autrefois et qu'il était digne de confiance. Donc, ce n'est pas juste se souvenir de comment Dieu était bon dans notre passé, comment Dieu a agi dans la vie de Jésus-Christ quand il était sur la terre et quand il a agi au travers de toutes les histoires de la Bible qui nous donnent de la consolation puis de l'espoir. Mais ce n'est pas juste pour rappeler à notre mémoire des faits. Mais c'est emprunté dans le passé des raisons qu'on a de croire que ce Dieu-là marche avec nous aujourd'hui et que ce Dieu-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, bien, il habite en nous. Et donc, ce n'est pas non plus une simple nostalgie de se souvenir qu'il y a eu des bons temps, qu'on a eu des bons moments avec Dieu dans le passé, mais c'est un emprunt dans le passé que celui en qui j'avais cru, quand j'ai eu mes expériences de montagne, c'est le même qui marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le même Dieu. Et donc, c'est un emprunt dans le passé. Et on dit à Dieu qu'on croit encore que comme il a agi dans le passé, il agit et il peut encore agir dans nos vies aujourd'hui. C'est manifester la même foi qu'il y a eu dans le passé. On se sert comme si c'était un moule. On dit, regarde, ça ici, là, c'est un moule par lequel je veux façonner mon présent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, je veux former ma situation présente avec des désirs et de l'espoir. Et on peut faire cet exercice-là au niveau personnel. Le psalmiste, il ne l'a pas fait au niveau personnel, il l'a fait en regardant l'histoire du peuple d'Israël. Mais nous autres, on peut se rappeler d'un moment où on était cassés, on n'avait plus une scène, puis il y a quelqu'un qui nous a fait un don. On peut se rappeler d'un moment où on disait, « Seigneur, je me sens tellement seul. » Puis il y a cette sœur-là qui t'a appelé puis qui t'a invité pour aller prendre un café. Puis tu as dit, crème, une drôle de coïncidence quand même. De voir dans les petits détails un Dieu qui a pourvu, un Dieu qui a répondu à ces prières-là, puis de se rappeler comment Dieu a été bon pour nous. Au verset 13, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est comme Dieu? » Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Grâce à sa mémoire, puis à cause qu'il comprend qui Dieu est et ce qu'il a fait, sa foi est édifiée. Puis au lieu de décrire Dieu par ce que je vois, On dirait qu'il n'y a pas de compassion. On dirait qu'il ne se presse pas pour agir. On dirait que, par la vue, on dirait que. Non, au lieu de décrire Dieu par les choses qui ne vont pas dans sa vie, Asaph décide de dire, arrête, je vais arrêter de regarder à comment je me sens, puis à comment j'ai de l'air à penser que Dieu n'est pas puissant. Puis je vais me rappeler de Joseph, je vais me rappeler de Jacob, je vais me rappeler d'Abraham, je vais me rappeler de ces histoires-là qui montrent que Dieu est capable et là, sa foi est édifiée et il va commencer à élever Dieu. On le voit dans le psaume, là, il dit, « Oh Dieu, tes voix sont saintes. » Vous ne trouvez pas que ça ne ressemble pas du tout au début du passage? Au début, c'était « T'es-tu là? T'es-tu bon? Tu vas-tu encore me punir? Tu vas-tu continuer à me punir? » Puis là, non, pouf, un émerveillement. Pourquoi il a mis son nez dans la Bible? Puis il a commencé à édifier sa foi et il a élevé Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire. Tu sais, on a entendu dans la vidéo que Dieu donne des bonnes choses à ses enfants, que si un homme, son enfant, il veut avoir un morceau de pain, il ne donnera pas une brique ou un serpent. À combien plus forte raison notre Père céleste, Jésus, nous a dit qu'il était bon. Mais ce Père-là a dit qu'il ne va pas se servir de ce qu'on, des choses pour nous apprendre. Moi, je pense qu'il va se servir de tout pour nous apprendre quelque chose. Okay? Mais pas pour nous punir, par contre. Et je comprenais ce qu'elle voulait dire. Mais pour nous amener dans sa grâce. Tu sais, en tant que père, il nous donne des bonnes choses, mais en tant que gentleman, il ne force pas la relation avec nous. Mais parfois, nous autres, on pense que parce qu'on est chrétien, on va nécessairement être béni, puisqu'on est enfant de Dieu. Et il y a une certaine bénédiction qui est là, puis à un moment donné, on est sur une vague, et la vague, c'est celle de la bénédiction. Mais on a dit dans toute la série sur la relation avec Dieu que Dieu, il est un père, il a une relation avec nous, mais il est aussi le roi, puis il veut être obéi. Puis il y a cette idée qu'il faut aussi marcher avec Dieu, puis obéir à Dieu. Et parfois, on pense que les choses vont bien aller, peu importe, parce qu'on est des chrétiens. Puis, des fois, ce n'est pas parce qu'on a mal agi, c'est parce qu'on est dans un monde déchu aussi. Puis Dieu, de toute façon, il ne nous a jamais promis que ça irait toujours bien. Mais il y a le mot complaisance que je veux parler. La complaisance, c'est de se plaire en soi-même. C'est que le chrétien, à un moment donné, s'il n'en a pas besoin, il ne se tourne pas vers le Seigneur. Les gens se tournent vers le Seigneur parce qu'ils en ont besoin. Et donc, la complaisance, c'est qu'on commence à se plaire en soi-même puis de penser comme Ben disait dans le partage sur les offrandes. On finit par croire que si on travaille, bien, c'est de l'argent qu'on a, c'est à cause de nous. T'sais. On commence à penser que tout ce qu'on a, c'est à cause de nous. Puis puisqu'on pense comme ça, on se détourne de celui qui est la source d'eau vive aussi, puis on commence à marcher plus autonome un petit peu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va se cacher un petit peu. Il va se cacher, puis il va nous laisser vivre de notre prétention, c'est-à-dire, sans Dieu, je peux faire quelque chose. On ne le dit pas comme ça, hein? On ne dit pas sans Dieu, je peux faire quelque chose. Mais si on se l'avoue, on ne se tourne pas nécessairement vers le Seigneur pour se décharger sur lui de nos fardeaux puis marcher en tandem avec lui. Quand on a la bénédiction, on est dans la joie puis on assume que tout roule puis on finit par oublier Dieu. On parlait de la mémoire tantôt. Il dit dans Osée chapitre 13, verset 4, je ne le lirai pas à l'écran, dans Osée chapitre 13, verset 4 à 6, il dit, « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu connais d'autres dieux que moi. Et il n'y a, tu ne connais d'autres dieux que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Et là, il va passer au « il ». Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Et c'est pourquoi ils m'ont oublié. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre d'Osée? Une femme qui était une prostituée, le mari lui donne tout ce qu'il a, il le prie, le sortit, si on peut dire, il lui donne tout, il donne son pain, il donne son beurre, puis à un moment donné, elle l'oublie, puis elle veut retourner vers ses amants. Mais le chrétien fait un petit peu la même affaire. Au début, il se reconnaît comme perdu, et là, il réalise que Jésus-Christ l'a sauvé, il tombe en amour avec ce Dieu-là, puis à un moment donné, il finit par oublier que si ça va mieux, si ça va bien, c'est à cause qu'il y a une relation, une nouvelle relation avec son Seigneur. Et oublier Dieu, c'est de cesser de se confier en lui comme on s'est confié en lui dans le passé. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Bien, il y a un amour rédempteur. Puis rédempteur, ça veut dire racheter, hein? Et son amour, c'est quoi? C'est de nous laisser vivre comme s'il n'était pas là. Ben, il nous laisse vivre qu'est-ce qu'on veut vivre comme vie. T'sais. Puis encore une fois, c'est encore une belle beauté dans l'amour, c'est que c'est par liberté. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il nous laisse à nous-mêmes dans un but rédempteur. Il nous laisse cache sa face. D'ailleurs, je vais le lire, c'est dans le psaume 30. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans le psaume 30. Je pense qu'on a fini avec le psaume... je pense qu'on a pas mal fini avec le psaume 77. Puis on va le voir, mais dans un autre angle. Psaume 30, verset 1. « Cantique pour la dédicace de la maison de David, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent. » Ça, c'est David, à mon sujet. « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait monter mon âme ce jour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Fait que lui a failli crever. Il était malade. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez vos louanges par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Et l'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne et tu cachas ta face et je fus troublé. » Ah. Qu'est-ce qu'on voit? David se souvient qu'avant que ça aille mal, il y avait de la complaisance. Tout roulait. Il était béni. Il dit, tu avais établi ma montagne. Tu m'avais affermi. Il avait la force. Il avait la sécurité. Il était affermi. Et qu'est-ce qui pouvait arriver à David? Tout baignait dans l'huile. Mais Dieu cache sa face. Et là, David devient troublé. Et il devient dépressif d'une certaine manière. J'ai été troublé. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce passage-là? On voit que la dépression aurait pu le mener à s'appuyer sur lui-même. Ou il aurait pu commencer à accuser les autres pourquoi que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a conduit à essayer de trouver ce qui a été perdu, la face de Dieu. Et c'est quoi qui faisait la joie de David? C'était son Dieu. Et on va voir le passage au verset 8. « Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, Dieu le bénit. Montagne. Établi. Complaisance commence à détourner son cœur du Seigneur. Abandon. Quand on dit abandonner, on comprend qu'il est dans une relation d'alliance avec nous. Hein. Il ne nous délaissera jamais ni ne nous abandonnera. Il va toujours demeurer ce père-là, mais cache sa face. David tombe dans un découragement, dans une dépression. Et qu'est-ce qui arrive? Une plus grande gloire que la première relation qu'il a eue avec lui. Une relation qui est passée de relation stagnante à une relation intime avec son Dieu encore. Si vous hésitez à savoir si ça, c'est un cycle qui est normal, lisez Néhémie chapitre 9. Il y a à peu près 9 histoires, une dizaine d'histoires du peuple d'Israël, que c'est exactement ce qui se passe. Et ces choses-là nous sont écrites pour nous servir d'exemple et aussi de consolation, à savoir, quand Dieu cache sa face, c'est pour qu'on la cherche, c'est pas pour nous punir. Et il dit au verset 11, là, il a failli mourir, il était dans une maladie qui l'amenait à la mort, puis il a supplié le Seigneur. Et le verset 11 dit, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Qu'est-ce qu'on voit? Dieu, il ne se cache pas toujours. Il est revenu, il n'est pas resté caché. Et le verset nous dit, c'est lui qui a enlevé le sac du deuil. Hein? On mettait un sac. Souvent, quand on faisait le deuil, il dit, tu m'as mis la ceinture de la joie. Et donc, Dieu redonne à l'homme et à la femme qui se tournent vers lui des raisons de chanter à cause de sa bonté. Donc, parfois, tu dis, tu veux essayer ça toute seule? Pas de trouble, vas-y. Et mais là, en faisant ça tout seul, on réalise, un, on a vraiment besoin de Dieu dans nos vies. Et Dieu, on a vraiment besoin d'une relation personnelle avec lui aussi. La joie est ultimement liée à l'espoir. Montrez-moi une personne qui a de l'espoir, je vais vous montrer une personne qui a de la capacité pour de la joie. Montrez-moi une personne qui ne voit aucun espoir et je vais vous montrer quelqu'un qui regarde ses bottines. Et chacun d'entre nous, Dieu veut nous donner de la joie. C'est un des fruits de l'esprit. Une des parties du fruit de l'esprit, c'est la joie. Et donc, l'espoir, ça a deux buts. Ça a un but, je te dirais, ça a un but, mais il y en a un qui est sur la terre, puis il y en a un autre qui est pour l'éternité. Hein? L'espoir, d'abord, pour la terre, puis il n'y en a pas un qui est mauvaise, puis l'autre qui est bonne, mais il y en a un qui doit être enveloppé de l'autre. OK? C'est-à-dire que il faut que mes espoirs que j'ai pour la terre soient enveloppés par un espoir d'en haut. Pourquoi? Bien, l'espoir sur la terre, c'est que j'espère que les choses vont bien tourner. J'espère que mon travail, ça va bien aller. J'espère que ma santé, j'espère qu'avec ma femme, ça va bien aller. J'espère que ma fille, vous allez bien aller. Mon fils, j'espère. Tu sais, j'espère que les choses vont bien aller. Donc, c'est dans un monde qui est assez fragile. Ma relation, par exemple, avec ma femme va de mieux en mieux. Pow! Je viens de perdre mon salaire, d'avoir une réduction de salaire à la shop. OK? J'ai un ballon qui vient de péter. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? Ça va bien avec ma femme. Et pow! Il y a quelque chose d'autre qui vient de péter dans ma vie. Hein? Mes enfants graduent à l'école, je suis fier de leur persévérance. Mon docteur m'apprend que j'ai un cancer. On a des ballons, des espoirs, mais on a des ballons pétés dans ce monde déchu. C'est un monde qui est fragile. C'est un monde aussi, comme dans ma série, j'ai parlé beaucoup sur le fait que tout peut arriver. Hein? Le malheur atteint souvent le juste, dans les Proverbes, ça dit. Mais l'Éternel en délivre toujours, mais il l'atteint souvent. Celui qui veut marcher pieusement avec Jésus-Christ va être persécuté. Il s'attire des bosses. Sur 12 disciples, il y en a un qui a dépassé son vieil âge, puis probablement aveugle, c'est Jean. Mais il a été exilé. Ils ont tous été persécutés. Ils en sont morts. Ça veut dire que si tout peut arriver, ça veut dire que si ma balloune, qui est les balloons bleus dans mon image, sont mon espoir dans cette vie, bien, 1 Corinthiens chapitre 15 dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. L'espoir dans cette vie ne fait aucun sens si elle n'est pas enveloppée de l'espoir d'en haut. Et j'espère que vos familles, vos amis, que vous pouvez transporter cet évangile-là dans tous ceux que vous aimez. Pourquoi? Parce que dans les cieux, il y a une vision qu'un jour, la déchéance de ce monde va être vaincue complètement. L'espoir éternel me dit que ce Dieu-là qui a commencé à marcher avec moi, ma relation avec lui ne sera jamais sevrée. Il ne m'abandonnera ni ne me laissera jamais. Et la mort même, qui est ce dernier ennemi, a été vaincue par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, si je meurs, moi, c'est juste que je m'en vais avec lui. Là. Je veux dire, c'est le commencement des belles choses que j'attends. C'est l'héritage qui m'est réservé dans les cieux. Et donc, la relation avec mon Dieu est la chose la plus précieuse qui garde tout le reste et qui donne du sens aussi à ma relation avec ma femme qui un jour va m'être enlevée. Soit elle part, soit je pars, soit elle me laisse parce qu'elle a trouvé un plus beau et un plus jeune, mais ce n'est pas ma femme de faire ça. Mais ce que je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, ça. Que quelqu'un vous laisse, quelqu'un continue à se mettre sur le marché pour aller se trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que ça vous est arrivé. Mais votre espoir céleste vous dit que vous êtes entre de bonnes mains et que si cette ballonne-là vous a pété dans les mains, vous avez encore, vous êtes toujours retenu par l'espoir que Dieu va prendre ce qui est mal dans cette vie et le tourner en bien si vous marchez avec lui. Et donc, sur la terre, mes relations vont m'amener plus de joie, mais vont m'être enlevées un jour ou l'autre. La joie de vivre va être interrompue par la mort. Si l'espoir de la terre n'est pas enveloppé par l'espoir céleste, c'est une illusion qui va être nécessairement déçue à un moment donné. La maladie, la mort, la séparation, le rejet va venir vous enlever des ballons dans votre vie. C'est sûr que ça va arriver. Mais si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus-Christ seul pour avoir la vie éternelle, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu et mis votre espoir dans le Dieu qui tient tout l'univers dans ses mains, vous êtes dans une illusion qui va être déçue. Ça va être sûr qu'il va y avoir un jour de déception. Mais pour le croyant qui a enveloppé ses espoirs de ce monde, dans l'espoir des cieux, il lui retrouve une consolation. 2 Corinthiens 5,1 dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, et nous gémissons dans cette tente car nous désirons revêtir le domicile céleste. » On ne s'en fait pas à croire. Jésus ne nous a pas dit que c'était pour être facile. Il nous a dit que ça valait la peine. Que ce n'est pas tout ça. Si on a un conjoint qui nous a abandonné, si on a un enfant qui est mort en bas âge, si on a quelqu'un qui nous a trahi ou abandonné, on est avec ce Dieu-là et il y a un domicile céleste. Nous sommes consolés, hein? Dans le psaume 77, ça a été écrit, ça, pour notre consolation. Et le terme, quand il dit, dans le psaume 77, quand il dit, ça disait ceci. S'il y a des pleurs la nuit, il y aura la joie le matin. Savez-vous, dans l'original, ce que ça dit? S'il y a des pleurs qui viennent loger le soir, la joie va venir demeurer demain matin. Ça, c'est l'espoir du croyant. S'il y a des pleurs qui viennent loger, ça veut dire qu'ils viennent, mais ils sont passagers. La joie, elle, va venir demeurer. Et c'est ça que l'enfant de Dieu a, c'est qu'il y a une relation avec Dieu, que oui, il y a des pleurs qui viennent loger, mais c'est la joie qui vient au matin demeurer. Et donc, le psaume 77 est écrit pour notre consolation. Romains 15, 4 dit « Tout ce qui a été écrit d'avance », un peu comme quand il a décidé de sortir de ses pleurs, quand il a décidé de juste rester dans ses pleurs de la nuit, il a commencé à aller voir l'histoire et utiliser sa mémoire. Qu'est-ce qu'il a vu? Tu as été fidèle avec Jacob, tu as été fidèle avec Abraham, tu as été fidèle avec le peuple d'Israël, tu t'es fait un chemin, tu n'as pas laissé tes traces. Et là, il a commencé à dire « Tes voix sont merveilleuses ». Il a commencé à laisser les Écritures des siècles passés, des choses qui s'étaient passées avant. Il a décidé de les laisser inspirer son cœur et de dire, « C'est-tu quoi j'emprunte dans le passé? » Ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Céline, c'est le Dieu de Jean-Claude, c'est le Dieu de Frédéric, c'est le Dieu de Jean-Sébastien. J'emprunte dans le passé. Je veux me rappeler de ce Dieu-là. Je veux connaître ce Dieu-là. Je veux ouvrir ma Bible et savoir avec qui je marche. Parce que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour mon instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espoir d'en bas est dans l'espoir d'en haut. Ipsom, hein, c'est Étienne qui nous a dit ça il y a 2 semaines. Il nous a sorti plein de versets dans les psaumes, puis il disait, c'était quoi? C'était vrai et... vrai. Il nous encourageait en tout cas d'être vrai, puis d'aller en prière. Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais... hein, vrai et confiant. Vrai et confiant. Qu'est-ce que le psalmiste dit au psaume 17, verset 14? Il était probablement dans un contexte de guerre. Il dit, « Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie. » Les petits ballons bleus. « Leur part est dans cette vie. Tu remplis leur ventre de tes biens. » Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Eux autres, là, leur but, c'est d'accumuler des biens, être heureux sur la terre, puis quand ils vont mourir, ben, ils ne peuvent pas les amener avec eux, fait qu'ils les donnent à leurs enfants et à leurs enfants. Ça, c'est le best qu'une personne peut faire sur la terre. Mais savez-vous qu'est-ce que le psalmiste dit? Quant à moi, couvert de ta justice, je te verrai dès le réveil et je me rassasierai de ton image. Autrement dit, de quel réveil qu'il parle? Il parle de sa résurrection. Il dit, « Je suis couvert de ta justice à cause de le... » Bon, lui, il ne comprenait pas l'œuvre de Christ, mais par la foi, une personne était déclarée juste. Il avait mis sa foi en Dieu, il avait mis son espoir en Dieu. Et couvert de ta justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassaisirai de ton image. Et c'est pour ça que les espoirs d'en bas doivent être placés dans les espoirs d'en haut, sinon ça ne fait juste aucun sens. Est-ce que vous comprenez l'image de l'un dans l'autre? Si ça pète en dedans, je suis encore entrepris, je suis encore dans les bras de mon Dieu, j'ai mis ma confiance en lui. Moi, je ne vais pas juste laisser mes biens, mes cure-dents à mes enfants et mes petits-enfants, je vais en plus voir sa face à mon réveil. Oh, il y aura eu des pleurs pendant la nuit. Mais ça a été passager. Puis les tristesses de ce monde sont passagères, mais les vraies choses sont éternelles. Et je vais voir sa face. Conclusion, notre vie sur la terre, c'est de s'abandonner avec Dieu, avec nos grandes questions. Vous pensez que Dieu n'est pas fidèle? On ne se l'avoue pas. Mais si vous pensez qu'il faut vous débrouiller tout seul parce que c'est votre lot, vous n'avez pas le choix, mais peut-être c'est que vous pensez, dans le fond, que Dieu vous a laissé vous débrouiller avec ça. Hein? Allez avoir Dieu, puis il dit, crime, j'ai l'impression que même Jésus l'a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? » S'abandonner à Dieu avec des grandes questions plutôt que d'embouteiller ça puis de se dissocier de nos émotions en ne faisant pas face à la chanson. Se rappeler ses bontés, lire les Écritures afin de trouver en elles la consolation, se confier. Psaume 56, verset 7. C'est quoi, il y en a qui ont leur... Elle avait dit « jarre de larmes ». C'est une jarre, c'est un mot français pour le vase, dans le fond. Alors, au début, je l'ai écouté deux fois, vidéo « jarre, jarre ». J'ai compris assez vite ce que ça veut dire. Hein. Mais elle dit que le Seigneur, il demandait de donner sa jarre. Mais savez-vous quoi, il y a beaucoup de gens qui gardent leur jarre de larmes. « Pauvre de moi! Pauvre de moi! C'est à cause de mon passé! » Je ne m'en sortirai jamais. Puis là, ils ont des larmes, puis ils les gardent avec eux autres, tu sais, puis ils se lamentent sur eux-mêmes. Et il dit, dans le psaume 56, verset 7, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » C'est quoi, à un moment donné, il faut essayer de voir comment on pourrait sortir de l'apitoiement sur soi, puis de pauvre de petite personne que je suis. « Ah, Seigneur, veux-tu prendre la pauvre petite personne que je suis? Puis même, est-ce que je peux connaître qui t'es dans cette situation-là? Prends mes larmes. » Et lui, il va les prendre, il va les essuyer, puis il va tourner ça en joie. Et comme avec Géraldine, on peut lui donner notre jarre au lieu de fuir, utiliser le désespoir pour se tourner vers Dieu. On va commencer à penser à la Sainte Cène, mais je vais quand même vous lire deux passages qui, à mon avis, résumeraient bien le message. Lamentation 3, 18 à 24. Lamentation 3, 18 à 24. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue tout au-dedans de moi, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Quand je pense à ma misère, je gémis. Voici ce que je veux me souvenir, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Hey, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je regarde toutes les traces de Dieu, toutes les fois où Dieu a été bon avec moi, toutes les fois où je pensais que c'était terminé. Puis Dieu a montré comment il était là avec moi, qu'il répondait à mes prières, qu'il me façonnait. Mais je n'avais pas de maturité pour comprendre sa bonté. Mais il a marché avec moi, puis là, de plus en plus, je le vois. Et pourquoi que ça serait différent? Non, non, je veux repasser dans mon cœur que sa bonté n'est pas épuisée et qu'elles ne sont pas rendues périmées. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence et un bonheur éternel à ta droite. Psaume 16, verset 11. On va se préparer pour prendre la Sainte-Cène. On va avoir un chant pour la Sainte-Cène. puis on va, avant de prendre les éléments, je vais revenir avec un petit passage de Paul à Timothée. Merci. Les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'Évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat. Souviens-toi de Jésus-Christ, le Messie ressuscité. Rappelle-toi, la souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Il est ressuscité. Dieu lui a donné la victoire. À combien plus forte raison s'il a donné la victoire à son Fils, il va aussi nous donner la victoire avec lui. Fait que ton combat que tu mènes, peu importe c'est quoi ton combat, souviens-toi que Jésus a ressuscité. Ça veut dire aussi que si Jésus est ressuscité, il est avec toi. Souviens-toi de ça. Puis c'est ce qu'on veut faire parce que Jésus nous a dit, quand vous prendrez ce pain-là et ce vin-là, faites-le en mémoire de moi. Rappelez-vous, est-ce qu'on est juste en train de rappeler quelque chose à notre imagination? Non, on est en train d'emprunter dans le passé. Et qu'est-ce qu'on emprunte dans le passé? C'est que ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il est mort pour nous. Et ça vaut la peine de se confier dans ce Dieu-là qui est mort pour nous. Ce n'est pas une simple nostalgie. Oh, ils l'ont crucifié. Non, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Puis il est ressuscité en plus, puis il mange ça avec nous autres. Bien, il mange ça. Il était avec nous pendant qu'on prend ce repas-là. Mais en même temps, comme Paul disait, nous avons hâte. Nous gémissons dans cette tente parce qu'on a hâte de revêtir notre domicile céleste. Fait que ce pain et ce vin-là, il nous annonce aussi qu'on va aussi le prendre avec lui dans sa maison. Ça nourrit notre espoir, ça nourrit notre gros ballon, que même si la vie elle a des ballons qui ont pété, il y a un gros ballon autour qui est qu'on va être avec Christ un jour et que tout va prendre son sens parce qu'on va être réunis avec lui à nouveau. Donc, on prend ce repas-là dans l'espérance de la résurrection, que si Christ est ressuscité, on va aussi ressusciter avec lui. On peut prendre les éléments. Je vous inviterai à rendre grâce à Dieu et à Jésus-Christ.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.